Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12h.
Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. C'est le grand jour, vous le savez, le jeudi noir. L'information jusqu'à 13h, c'était avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Dans la rue ou dans la galère? Suite évidemment de notre journée spéciale sur RTL, journée consacrée à cette mobilisation contre la réforme des retraites. Le gouvernement à l'épreuve de la rue ce jeudi. Le pays en partie paralysé. Plus de 200 manifestations dans toute la France. Quelle ampleur pour cette mobilisation? Quelle sera la suite du mouvement? Ce seront évidemment les grandes questions de cette édition. Et l'exécutif qui surveille ça depuis Barcelone. Le président et une partie du gouvernement sont en Espagne. Déplacement évidemment prévu de longue date. On y reviendra à 12h40. Cette journée de grève, c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous réussi à prendre les transports en commun? L'actualité, c'est aussi le groupe Gosport placé en redressement judiciaire. Caroline Garcia qui s'est qualifiée pour le troisième tour de l'Open d'Australie. Et puis comme la retraite c'est souvent mieux à deux, on parlera site de rencontre à midi 20 dans RTL Midi Votre Vie avec l'une des représentantes de Mythic qui a vu les inscriptions bondir en ce début d'année.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui on part pour Nancy dans un restaurant monument historique qui porte décidément bien son titre. De l'histoire toujours juste avant 13h dans LVT Midi. Laurent Marsic nous proposera une visite de la Cité de l'Histoire qui vient d'ouvrir sous la Grande Arche de la Défense près de Paris.
J'attends évidemment vos témoignages entre 13h et 14h30. Peut-être serez-vous dans les manifestations. En tout cas, appelez-nous au 3210.
La météo, c'est avec vous, Peggy Broche, aujourd'hui. Bonjour Peggy.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
C'est un temps hivernal et bien pluvieux sur l'ouest du pays.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Les prévisions de circulation étaient sombres et c'est bien un jeudi noir qui s'est confirmé dans les transports. Ce matin, peu de trains, peu voire pas de métro sur certaines lignes à Paris. Grosse galère donc pour ceux qui n'avaient pas le choix et qui ont dû se déplacer malgré tout. Comme Jenaba, partie de Goussainville très tôt ce matin.
La catastrophe, chez moi j'ai pas le train et mon mari m'accompagnait ici en voiture. En tant qu'intérimaire, je peux pas supprimer mes jours de travail. J'ai pas le choix parce que j'avais accepté de travailler il y a un mois. Peu importe, il faut aller travailler, sinon on nous appelle plus pour travailler. Là, on sait l'heure on va partir, mais on ne sait pas quelle heure on va rentrer chez nous. Temps normal, c'est 50 minutes maximum. Aujourd'hui, je serai obligée de faire 3 heures pour y aller déjà. Parce que je sais, à Châtelet, il n'y aura pas horaire A. Il faudra trouver une autre solution pour y aller. Je ne sais même pas à quelle heure je vais arriver. Autant que femme de chambre, moi, je sais, à 64 ans, j'ai 37 ans. À 64 ans, je ne pourrai pas faire ce métier. On les soutient, on est d'accord avec eux, mais... ils pensent pas à nous. On va faire avec, on a l'habitude, hein.
Un témoignage recueilli pour RTL par Vincent Serrano.
Et puis il y a tous ceux qui ont décidé de se déplacer pour manifester.
Ça a commencé dès ce matin, 15 à 20 000 personnes par exemple à Nantes. Grosse mobilisation hein, d'après notre correspondant Mathieu Lopineau sur place. Rassemblement aussi à Rennes, Toulouse ou encore Marseille. Hugo Hamelin, vous avez suivi le cortège sur la Canebière, un cortège emmené notamment par Jean-Luc Mélenchon.
Oui, exactement, sur une Canebière noire de monde, des milliers de manifestants malgré le mistral glacial qui sévit ce midi. Et dans le cortège de tête, vous l'avez dit, le leader de la France insoumise pour qui cette réforme des retraites est injustifiée.
Quand on prend une décision aussi grave que celle de retirer 2 ans de temps libre aux gens. Le temps libre, c'est pas un temps où on fait rien, c'est un temps où on choisit son activité, qui serve à toute la société. Eh bien, il faudrait qu'il y ait une justification, il n'y en a pas. Les caisses, le régime de retraite n'est pas en déficit et ne le sera pas. Donc oui, il faut qu'il la retire.
Voilà, parmi les manifestants, vous avez des électriciens, j'ai vu des professeurs, des retraités, des lycéens également assez présents, quelques gilets jaunes, des militants de la cause climatique également, et puis des salariés des importantes industries locales. Par exemple, on a ici Airbus Hélicoptère qui est à Marignane. Écoutez, Rémi Basali, c'est le délégué CGT de cette entreprise qui a mobilisé des centaines de salariés aujourd'hui.
On est là aujourd'hui, c'est pour faire reculer le gouvernement. Airbus est une entreprise du CAC 40. L'année dernière, on a fait 6,5 milliards d'euros de bénéfices. C'est le travail de l'ensemble des salariés. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on va aller crever à 64 ans au travail. Il y en a ras-le-bol. Et ça, ici à Airbus, ou que ça soit ailleurs, ça sera pareil. Il faut que tout le monde soit dans la rue. La jeunesse, les anciens, tout le monde.
Importante mobilisation donc à Marseille ce midi. Le cortège est parti avec 1h30 de retard. C'est pour vous dire les dizaines de milliers de personnes qui sont rassemblées ici. Parmi les pancartes aperçues, je vous livre celle-ci, la retraite avant l'arthrite.
Hugo Hamelin à Marseille. Et donc pour RTL, je vous rappelle qu'à Paris, le cortège doit s'élancer à 14h de la place de la République, direction Nation. Cortège très encadré, hein. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer leur sécurité.
Vous le disiez, 10 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France pour 200 rassemblements dans le pays.
Une mobilisation qui sera scrutée de près par l'exécutif, enfin de près de Barcelone plutôt, puisqu'Emmanuel Macron et une partie de son gouvernement sont en Espagne. Bénédicte Tassard, loin de Paris donc. Ce qui peut surprendre, hein, Bénédicte, en cette journée si cruciale sur le front social.
Et oui, mais la date de ce sommet franco-espagnol avait été fixée début décembre et il n'est pas question pour l'exécutif français d'annuler ce genre de rendez-vous très important en ce moment pour la cohésion européenne, alors que notre continent fait face à la guerre en Ukraine, à une crise énergétique et à une situation économique qui se dégrade. On signe ici le traité de coopération et d'amitié franco-espagnol. Il n'existe que deux traités de ce genre pour l'instant ratifiés avec l'Allemagne et l'Italie. Et le Premier ministre Pedro Sanchez est donc en train de devenir un partenaire majeur pour Emmanuel Macron à Bruxelles pour peser sur les décisions européennes. Ici, au Musée national d'art de la Catalogne, à Barcelone, le président français est arrivé avec une petite demi-heure de retard sur l'horaire prévu et accompagné, c'est vrai, de 11 membres du gouvernement. Chacun va rencontrer son homologue espagnol pour discuter projets communs pour l'éducation, les transports, la lutte contre l'immigration clandestine. Emmanuel Macron prend de la hauteur face à la réforme des retraites et au conflit social. À Elisabeth Borne de gérer la journée.
Bénédicte Tassard à Barcelone pour RTL. Et pendant que le chef de l'État est à Barcelone, Marine Le Pen, qui fait partie des opposants à cette réforme, ne sera pas dans les cortèges puisqu'elle est en déplacement, on le rappelle, au Sénégal.
Les 2100 salariés attendaient le coup près avec impatience. Le groupe Gosport est placé en redressement judiciaire.
Le distributeur d'articles sportifs qui appartient à la même maison mère que Camailleux, liquidé il y a quelques mois, est en cessation de paiement selon le tribunal de commerce de Grenoble. Serge Pleyot, ça confirme les inquiétudes des salariés qui, depuis plusieurs semaines déjà, tiraient la sonnette d'alarme.
Oui, dès l'audience de lundi dernier au tribunal de commerce de Grenoble, les représentants des salariés de Gosport avaient pressenti une mauvaise nouvelle pour leur entreprise, au point de s'en prendre verbalement à leurs dirigeants qui sortaient du tribunal.
Pourquoi vous nous avez pillés, monsieur Hubner? C'est une honte! Une honte! Camailleux vous a pas suffi? Maintenant, c'est Gosport! Vous l'emmènerez pas au paradis, monsieur Hubner?
Voilà, le placement en redressement judiciaire de Gosport n'est donc qu'une confirmation de la mauvaise santé financière du groupe, dont le passif s'élèverait à 14 millions d'euros. Deux administrateurs et deux mandataires judiciaires vont désormais gérer l'entreprise. Christophe Laval, délégué force ouvrière et porte-parole du CSE.
Le tribunal du commerce de Grenoble n'a pas été dupe des explications foireuses de l'actionnaire pour tenter d'emporter une conciliation dans laquelle il resterait un petit peu maître du jeu. Il est évident que nous voulons à tout prix préserver les emplois et surtout pas se retrouver en liquidation judiciaire sèchement comme l'a vécu Camailleux. Parce que Camailleux a fait confiance à l'actionnaire qui leur a dit « mais non, tout va bien, vous inquiétez pas » et en fait, en quelques mois, Camailleux a été liquidé. Ne veut plus avoir affaire à notre actionnaire.
Voilà, les syndicats espèrent que les 2160 emplois du groupe seront sauvés. Concernant la direction de Gosport, c'est silence radio pour l'instant.
Serge Pueyo à Grenoble pour RTL.
Le tennis, et ça passe pour Caroline Garcia, l'Open d'Australie.
La Française s'est qualifiée pour le troisième tour, mais elle a dû batailler face à la Canadienne Leila Fernandez. Victoire 7-6, 7-5. L'expérience a fait la différence.
Je ne sais pas si c'est soulagement le bon mot. Après, forcément, je suis vraiment contente de la victoire, parce que déjà, une victoire, c'est toujours une victoire bonne à prendre. Que son jeu, c'est quand même un challenge par rapport à mon style de jeu. C'est pas forcément celui qui est des fois le plus évident. Elle a un petit peu joué comme moi, j'aime jouer. Et des fois, elle l'a fait mieux que moi aujourd'hui. Et forcément, je suis contente de m'en sortir en 2-7. Ça me donne confiance et c'est une étape importante de franchir.
Caroline Garcia avec Christophe Mallet à Melbourne pour RTL. Et notez qu'un Français est en train de réaliser un... un petit exploit. Enzo Cuoco a réussi à mettre un set, comme on dit, à Novak Djokovic. Un set partout, donc, mais il est mené actuellement 3-0 dans le troisième set. La météo, on vous retrouve Peggy Broche pour un après-midi humide et frisqué.
Oui, surtout sur l'ouest du pays puisqu'on a cette perturbation qui est en train d'entrer par la façade atlantique. Alors entre la Bretagne et l'Aquitaine avec des pluies soutenues du côté des Landes. D'ailleurs, je rappelle que les Landes sont en vigilance crue et il y a 8 autres départements qui sont en vigilance neige verglas entre la Dordogne et le Roussillon puisqu'en fin de journée et début de soirée, on devrait avoir un épisode neigeux jusqu'en plaine dans le sud-ouest. Donc soyez prudents. Ailleurs, c'est souvent gris, sauf entre la région PACA et les Alpes, où là, le soleil domine. Attention au risque d'avalanche, d'ailleurs, sur les Alpes qui est fort, tout comme sur les Pyrénées. Et sur un grand quart nord-est du pays, on a un temps souvent gris avec quelques éclaircies ici ou là et quelques chutes de neige, parfois pluie et neige mêlées du côté des Hauts-de-France, par exemple, et en Corse, quelques averses. Vous l'avez dit, c'est hivernal. Côté température, on est souvent sous les normales, surtout au nord. 1 à Langres, 3 à Metz, 4 à Paris et Lyon, 5 à Brest et Lille, 6 à Montauban, 7 degrés à Toulouse, 8 à Bordeaux, 10 à Toulon et 13 à Nice.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous en France, vous le savez, chaque jour l'info au plus près de vous avec une petite pause resto dans cette actualité très chargée.
Une pause resto à Nancy. Bonjour Samuel Goldschmidt.
Bonjour.
Et pas dans n'importe quel bistrot, hein. On parle de l'Excelsior, la magnifique brasserie historique de la ville où à la faveur d'un petit accident, Samuel, on vient de découvrir un nouveau petit bijou.
Ouais, petit, 14 mètres quand même, 14 mètres carrés le bijou. Oui. Figurez-vous qu'un pan d'un des miroirs qui recouvre certains murs n'était pas en bonne posture. La suite, c'est le directeur de l'Excelsior, Éric Gérard, qui nous la raconte.
Un des miroirs s'est décroché, quoi, une attache s'est décrochée. Et donc, pour la sécurité des clients, nous avons décidé d'ôter ce miroir. Et là, surprise, quand on a démonté ce miroir, effectivement, on a vu qu'il y avait une fresque derrière. Donc on s'est dit, on va enchaîner. Donc on a démonté tous les miroirs. Et là maintenant, la deuxième phase, ça va être de la restaurer.
Voilà cette fresque champêtre du décorateur René Emmanuel, oubliée depuis plus de 75 ans.
Et qu'est-ce qu'elle représente, cette fresque ?
Alors, c'est une scène champêtre charmante où un angelot verse de la bière à des nymphes en pamoison. C'est une affiche publicitaire, hein, ni plus ni moins, parce que l'Excelsior, c'était une brasserie au premier sens du terme, une vitrine pour vendre la bière Moreau. Sauf que la famille Moreau voulait le meilleur pour faire concurrence aux autres brasseries alentours. Elle a carrément embauché tous les plus grands artistes de l'art nouveau pour construire un débit de boisson. Bertrand Munier est journaliste historien. L'Excelsior n'a pas de secret pour lui.
Tout est historique ici. On était en pleine vague de l'école de Nancy, donc Weisenburger comme architecte. Donc Majorelle, lui, tout ce qui est mobilier, tout ce qui est lustre en cuivre, tout ce qui est ampoule, pâte de verre, ça c'est du dôme. Et puis là, donc tout ce qui est les grands miroirs qui donnent sur l'extérieur, sur la rue Poincaré, tout ça c'est du Gruber.
Qui a fait les vitraux des Galeries Lafayette à Paris.
Notamment. Et tout ça en 9 mois. De 1910 à 1911, en février 1911, était inaugurée la brasserie Excelsior.
Il y a eu beaucoup d'aventures depuis, hein. C'est devenu un tripot mal famé dans les années 60, ça a failli être détruit, mais l'Excelsior est monument historique depuis 1976.
Un restaurant monument historique.
Ah oui, oui, restaurant art nouveau et art déco pour une extension, ça c'est unique en Europe. Le directeur Éric Gérard a coutume de dire que les clients ici regardent plus en l'air que dans leurs assiettes. Et quels clients ? Attention !
On a des étrangers d'Asie, on avait des Russes auparavant. Pelé est décédé il y a peu de temps, on peut parler de Pelé. Pelé est venu à l'Excelsior en 88 lors du jubilé de Michel Platini. On a David Bowie qui était très amateur d'art nouveau. Et en 92, quand il faisait son concert à Amnéville, il est passé à l'Excelsior l'après-midi, la veille de son concert, pour découvrir l'art nouveau.
Voilà, et vous pouvez maintenant déjeuner à côté de cette fresque qui est encore dans son jus et elle va être donc restaurée dans les prochains mois. C'est compliqué les travaux à l'Excelsior parce qu'il faut à chaque fois demander l'autorisation des architectes des bâtiments de France.
Forcément. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt.
Et vous le savez, chaque jour on s'arrête sur un sujet au cœur de l'actualité. Aujourd'hui c'est Martial You qui va nous parler peut-être des retraites, de la mobilisation réussie.
Un peu dans l'actualité.
On n'arrive pas à savoir à quoi sert cette retraite finalement. Si vous pouviez le pitcher. Oui, ça sert à quoi ?
Ben alors là, c'est tout le débat. C'est est-ce que ça sauve ou pas le système ?
Oui.
Comme vous avez autant de scénarios du corps que d'interprétations, chacun a
ça. Donc on n'arrive pas à le pitcher.
Mais c'est pas tout à fait l'angle qu'on va développer
non,
juste après. Hein,
mais c'est celui qui me paraît le plus important. À quoi sert cette réforme ? 12h14, à tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
200 rassemblements, vous le savez, aujourd'hui dans toute la France pour contester la réforme des retraites défendue par l'exécutif. Jean-Luc Mélenchon a assuré, lui, ce matin, que le gouvernement avait déjà perdu sa première bataille, celle d'avoir convaincu les gens de la nécessité de sa réforme. Vous en parliez il y a quelques instants, Pascal.
Et son côté mélenchoniste.
C'est ça qui est bien connu. Et nous accueillons...
J'ai écouté en tout cas M. Omeril ce matin, je l'ai trouvé très intéressant.
Mais il est toujours très intéressant, c'est vrai.
Et c'est toujours intéressant d'écouter RTL.
Et il n'est pas vraiment mélenchoniste, convenons-en.
Martial You, vous êtes donc dans ce studio avec nous, chef du service économie ici à RTL. Bon Martial, il est midi 16, est-ce qu'on peut déjà dire que la mobilisation contre cette réforme est réussie ?
Alors, si on regarde ce qui s'est passé dans les cortèges ce matin, j'ai regardé les chiffres qui étaient publiés. Vous avez 25 000 manifestants à Marseille, selon la police, à peu près. Donc 150 000 selon les syndicats. Ce sera ça, à peu près, l'étiage.
Toulouse, c'est Marseille.
Ouais, Toulouse, c'est 20 000, 30 000. J'ai pas regardé Nantes.
15 à 20 000, d'après notre correspondant Mathieu Lopineau.
Mais c'est exactement le niveau de mobilisation qu'il y avait en décembre 2019, au moment de la précédente fronde anti-réforme des retraites. Donc, je dirais qu'on n'est pas sûr, pour l'instant, de ce qu'on en voit, bien sûr, parce que l'heure de vérité, ça va être cet après-midi à Paris, évidemment. Mais pour l'instant, on est sur une mobilisation tout à fait correcte, mais pas exceptionnelle. Simplement, aucun des syndicats n'a intérêt à ce que ce soit exceptionnel tout de suite et dès aujourd'hui. Parce qu'en réalité, on se souvient, évidemment, de 1995, un mouvement comme ça de protestation contre une réforme des retraites, si les syndicats veulent que ça fonctionne, il faut que ça monte en puissance.
En 2010, il y avait beaucoup de monde, hein, et ça n'avait rien changé.
Ah bah ça, c'est un autre problème, c'est qu'aujourd'hui...
Il y avait 1 million de personnes dans les rues et ça n'avait rien changé.
Oui, depuis 1995, en réalité, c'est ce qui fragilise. Voilà, il y a eu le CPE.
Il y a le CPE sinon, et 95, les deux, voilà, autrement, tout est toujours passé.
C'est la dernière fois qu'on a fait plier un gouvernement, en fait, sur une réforme des retraites.
Bon, pourquoi le cap du million est si symbolique ?
Alors, il est symbolique du fait de 1995 précisément, où on était monté jusqu'à 2 millions, donc on a coutume... En fait, il est instrumentalisé, j'ai envie de vous dire, ce chiffre de 1 million. Il n'y a pas un syndicaliste pour l'instant qui a cité ce chiffre d'un million. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Hier, Souillot, le patron de Force Ouvrière sur RTL, disait « on n'est pas là pour se compter ». C'est un rapport de force. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de monde pour que le gouvernement se dise qu'il va falloir entamer des discussions. Mais mettre un chiffre, c'est à double tranchant. Soit vous êtes en dessous du million et on estime que le mouvement ne prend pas. Soit vous êtes à 1 million et plus aujourd'hui et vous êtes à 850 000 dans une semaine s'il y a une nouvelle journée de mobilisation. Et on dira dans une semaine, le mouvement s'essouffle. Donc, les syndicats n'ont absolument aucun intérêt à donner un chiffre. C'est plutôt ceux qui sont adversaires, enfin qui défendent le texte de loi, qui ont intérêt à mettre une jauge pour pouvoir estimer si oui ou non ça marche.
Le problème, c'est que personne ne défend cette loi. Quasiment personne.
Le gouvernement le dit, ils ont tout le monde contre eux. Et de plus en plus, d'ailleurs, même dans leur propre rang, ça commence à s'inquiéter.
Donc c'est ennuyeux.
La suite, justement, Martial, elle peut ressembler à quoi ? On doit s'attendre à une grève dure, à des journées d'action un peu éparses ?
On est dans la comédia dell'arte sociale, c'est-à-dire que chacun joue son rôle, là, aujourd'hui, c'est-à-dire que le rapport de force s'installe, c'est une guerre de tranchées. C'est-à-dire qu'il faut, je pense pas, je peux être démenti demain, évidemment, que ce sera... il y a 70 à 100% de grévistes dans les raffineries, vous avez 34-42% chez les enseignants aujourd'hui. 34-42%, c'est moins que ce qu'ils avaient annoncé, 70%.
C'est ça.
Mais c'est beaucoup plus que la dernière journée de mobilisation des syndicats enseignants, ils étaient 6%. Donc on s'installe, guerre de tranchées, le front syndical doit rester uni le plus longtemps possible, et donc c'est plutôt un mouvement de journée de mobilisation qui nous attend sur 6-8 semaines, avec des journées comme celle-ci où on comptabilisera les forces.
Et on continuera de les comptabiliser avec vous. Merci beaucoup Martial You d'être venu nous éclairer dans RTL Midi.
Vous êtes entré avec une doudoune et vous avez enlevé votre doudoune
pendant...
Je
sens qu'il y a une chaleur dans ce studio.
Vous avez enlevé votre doudoune pendant que vous parliez.
J'ai mis les bretelles à la blondelle, voyez, mon côté syndicaliste.
Dans un instant, RTL Midi, votre vie, on parle de quoi ? Des célibataires qui cherchent l'âme sœur, peut-être. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes. Digital, donc de Mythique Europe. Le 8 janvier, par exemple, c'était un dimanche. Mythique a enregistré plus 56% d'inscriptions par rapport aux autres dimanches de l'année passée. Comment on explique un tel bond ?
Alors, c'est vrai que le mois de janvier en particulier, donc très précisément entre le jour de l'an et la Saint-Valentin, c'est un moment très important pour les célibataires. Et chaque année, chez Mythique, on observe vraiment ce pic d'inscription. C'est un moment où les gens ont envie de renouveau, on a envie de se projeter de manière positive. Effectivement, en plus, l'année 2022, avec encore du Covid, de l'inflation, fait qu'aujourd'hui, et encore plus, les célibataires sont vraiment mobilisés. Et donc le 8 janvier dernier, donc ça s'appelle le Love Sunday, on l'appelle comme ça chez Mythique, c'est là qu'il y a eu le pic d'inscription et le pic de nombre de messages échangés.
Il y a un peu de déception parfois chez les auditeurs lorsqu'ils parlent de Mythique, parce qu'ils arrivent et puis ils ne rencontrent pas forcément l'âme sœur, notamment les femmes. C'est très compliqué de rentrer en communication. En 2023, en tout cas, 71% des célibataires veulent vivre une histoire d'amour. L'ambiance anxiogène pousse à ça aussi ?
Alors, c'est vrai que tout ce qui s'est passé, et encore une fois, que ce soit le Covid, le contexte économique, climatique, l'inflation aussi, qui a
l'inflation, ça
donne envie d'être amoureux, l'inflation.
Ça change, ça bouleverse les habitudes.
On divise les frais par deux.
Non, mais avant, on allait beaucoup au restaurant, et aujourd'hui, on se rencontre aussi dehors, en plein air, on partage des moments ensemble, donc ça change aussi un peu les habitudes. Mais ce qui renforce encore vraiment, dans ce contexte qui est encore renforcé, c'est vraiment le désir de vivre des belles histoires d'amour. Et effectivement, Mythique, c'est 8 millions d'histoires d'amour. Et c'est ça aussi qui fait que les gens continuent d'y croire.
Pour revenir à l'inflation, ce que vous voulez dire, c'est qu'on sort moins dans les bars, dans les restaurants, pour espérer rencontrer ou croiser quelqu'un, et qu'on va plus directement sur une application pour être sûr, entre guillemets, du résultat.
Alors, il y a ça, effectivement, parce qu'on peut, sur une application comme Mythique, on peut aller regarder des profils avec des critères, on peut laisser une note audio aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que la photo, on essaye aussi de ramener des choses plus réelles et authentiques, donc on peut laisser une petite note vocale, et on sait bien que la voix fait grandement partie de la séduction.
Bon, il y a 8 millions de personnes, vous m'avez dit, sur Mythique. Est-ce qu'il y a
8 millions de couples qui se sont formés.
Oui, mais combien de gens sont inscrits aujourd'hui, par exemple?
Alors, nous, on parle beaucoup de nombre de couples formés, plusieurs millions sur Mythique. Et voilà, et en France...
Il y a des tranches d'âge peut-être privilégiées? Il y a plus de jeunes que de vieux? Il y a plus de femmes que d'hommes? Ou alors c'est tous les âges et toutes les catégories socio-professionnelles et tous les critères?
Alors chez Mythique, effectivement, le profil, c'est des trentenaires qui ont vraiment envie de sérieux et d'authentique. C'est ce qui nous caractérise par rapport à d'autres applications. On est partout en France, on est vraiment représentés. On organise aussi, vous savez, des événements dans la vraie vie, et on les organise un peu dans les différentes villes. Et ça, c'est vraiment important aussi de créer des moments, de faire le lien entre le digital aussi et la vraie vie. Donc on en organise beaucoup. Et pour répondre à votre question sur la parité, chez Mythique, on est très très proche. On est 48% de femmes, 52% d'hommes.
Mais merci beaucoup Céline Boudia. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et digitale de Mythique Europe. Et on retient donc cette idée du Love Sunday début janvier pour préparer, on l'a compris, la Saint-Valentin, qui est, on le rappelle, le 14 février. Merci beaucoup.
RTL
Merci.
Revient très vite pour parler de l'actualité, et peut-être qu'on peut aussi rencontrer l'amour dans une manifestation, pourquoi pas. Ça a dû se passer, de toute façon on peut rencontrer l'amour partout. Regardez, même dans un studio de radio parfois. 12h27, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
La grande édition avec Céline.
Avec bien sûr cette journée spéciale retraite qui continue sur RTL avant la grande manifestation parisienne cet après-midi. Les premiers cortèges ont défilé dès ce matin de Marseille à Rennes, de Toulouse à Nantes. On sera évidemment aux côtés des manifestants dans cette édition. Quelle ampleur aura d'ailleurs cette journée de mobilisation? C'est la grande question qui nous animera jusqu'à la fin de la journée. Sur l'antenne, une mobilisation scrutée par le gouvernement à Barcelone, puisque c'est un sommet franco-espagnol aujourd'hui et qu'Emmanuel Macron est dans la capitale catalane avec une grande partie de l'exécutif. Est-ce normal? C'était prévu de longue date, on le sait. Comment l'exécutif appréhende-t-il cette journée de mobilisation? On en parlera longuement après le journal dans une dizaine de minutes. Dans cette édition aussi, la question du gaz. Que faire de notre gaz? Les Français ont fait tellement d'économies qu'il nous en reste sur les bras. Un surplus qu'il va bien falloir gérer. Arnaud Touche vous expliquera tout. Et puis quand la NBA s'invite à Paris, Détroit affronte les Bulls de Chicago ce soir à Bercy. Et vous verrez, c'est américain, c'est grandiose. Même le parquet a traversé l'Atlantique pour que tout soit authentique. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT Midi. On ira à la Cité de l'Histoire qui vient d'ouvrir. Visite guidée avec Laurent Marsic. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de cette grève contre la réforme des retraites. Vous le savez, les transports sont très perturbés aujourd'hui. Avez-vous réussi, vous, à prendre les transports en commun? Dites-nous tout.
Tous ces sujets, évidemment, on les évoquera à partir de 13h avec les auditeurs au 3210. J'ajoute, allez-vous sur les sites de rencontres? On vient d'en parler, les applications pour trouver la mûre. Eh bien, vous nous le direz tout à l'heure, entre 13h et 14h30. Ça nous donnera un peu de légèreté dans cette actualité lourde.
J'attendais la fin de la phrase, merci Pascal. La météo à la fin du journal, ce sera avec vous évidemment Peggy Broche, mais déjà un indice sur ce qui nous attend.
Bien hivernal, avec pas mal de pluie sur l'ouest du pays.
Merci Peggy.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Combien seront-ils à l'heure de faire les comptes ce soir? Le chiffre de la mobilisation dans les quelques 200 cortèges du pays sera évidemment scruté, certainement discuté, contesté aussi. Depuis ce matin, en tout cas, des dizaines de milliers de personnes ont déjà défilé dans plusieurs villes du pays. C'est le cas à Nantes, Mathieu Lopineau.
Oui, effectivement, beaucoup de monde autour de moi, plus de 20 000 manifestants au miroir d'eau en centre-ville, avec dans le cortège Didier, 67 ans, retraité, qui a donc voulu manifester par solidarité, dit-il, pour les plus jeunes et puis pour lui.
Et moi, je suis venu dans cette manifestation pour défendre le droit à la retraite pour tous, essentiellement aussi en solidarité avec les plus jeunes. J'ai travaillé 44 ans, j'ai commencé très tôt, à 16 ans, je suis parti à 60, après 44 ans de travail. Parce que je défends aussi la retraite, nos demandes d'augmentation de pension, parce qu'elles sont à la traîne.
Il y a beaucoup de jeunes, des lycéens, des familles également dans ce cortège nantais. Yves et sa femme, elles sont des professeurs à la retraite. Ils manifestent avec leurs deux grandes filles qui sont enseignantes aussi et puis leurs trois petits-enfants.
Et malgré ça, nous on est bien en retraite, mais on a envie que ce soit pareil pour nos enfants.
Puis on en a marre d'entendre dire que les retraités, ils soutiennent cette réforme. Donc on est là aussi pour montrer que c'est pas vrai.
Et le cortège nantais sous la pluie bien fourni prend donc désormais la direction de la préfecture où des prises de parole de différents syndicats sont prévues.
Merci beaucoup Mathieu Lopineau à Nantes. Donc pour RTL, on reste à l'ouest, direction Rennes où le cortège défilait là aussi ce matin avec des syndicats très déterminés à l'image de Fabrice Lérespif, délégué FO, pardon.
Soit on baisse la tête, soit on se bat. Et nous, on a décidé de se battre jusqu'au retrait. Pas simplement on fait le tour de Rennes, de Paris, de Marseille pour rentrer gentiment demain. On ne gagnera pas ce soir, tout le monde le sait. En face, on a un trio, Macron, Borne, Dussopt. C'est un trio d'arnaqueurs et de voleurs et de menteurs. La seule chose qu'ils connaissent, c'est le rapport de force. La grève jusqu'à satisfaction. Parce que dans l'histoire, on n'a jamais gagné que comme ça.
Fabrice Lérespif, délégué FO à Rennes, donc ce matin des propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL. Je vous rappelle qu'à Paris, mobilisation très attendue, là aussi le cortège doit s'élancer à 14h de la place de la République, direction Nation.
Et le corollaire des cortèges, ce sont bien sûr ces perturbations dans les transports notamment.
Avec de nombreux trains supprimés toute la journée, un TGV sur 3, voire 1 sur 5 selon les lignes, des trains régionaux très rares, idem pour le métro et les RER à Paris. Le secteur des transports qui n'est pas le seul touché. La grève est aussi très suivie dans l'éducation. 42% des enseignants du primaire, près de 35% dans le secondaire sont grévistes, d'après le ministère de l'Éducation nationale. Alors, à Strasbourg, où en plus il n'y a pas de cantine, Yannick Collant, les familles se débrouillent comme elles peuvent.
Oui, devant cette école du Neufeld, pas mal de grands-parents mobilisés, comme Michel.
Je viens chercher mon petit-fils, j'ai fait 100 km pour le récupérer.
et puis je l'emmène déjeuner à midi à la maison chez lui, et ensuite je rentre chez moi en Lorraine. Mon gendre est en déplacement professionnel, il travaille en Allemagne pour une société allemande, donc la grève connaît pas.
Sophie, elle, trépigne devant la grille. Cette maman doit se dépêcher de récupérer ses deux enfants dans deux écoles différentes pour leur donner à manger et vite repartir au boulot.
Je suis allée travailler, mais je suis partie plus tôt et je retourne plus tard au travail. Donc je suis partie un peu tôt, ouais. À 11h15. Si c'est une journée, ça va, on arrive à s'organiser.
Andrea, elle, a pris une décision radicale depuis l'an dernier. Elle élève seule ses deux enfants et elle a dû changer de métier pour être capable de faire face aux imprévus des journées de grève.
Parce qu'il y avait tellement de grèves que ça ne suffisait pas à mes congés. Et comme je suis seule à m'occuper de mes enfants, j'ai dû changer de travail et donc je gagne moins. Mais au moins, j'ai la sécurité que je suis présente.
Sans aller aussi loin, d'autres parents m'ont expliqué qu'ils avaient dû changer leurs horaires aujourd'hui. Ils travailleront de nuit pour compenser cette journée perdue.
Yannick Collomb à Strasbourg pour RTL et toujours à propos de cette grève contre la réforme des retraites. Notez ce rendez-vous ce soir à 18h15. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera l'invité de RTL Soir. Il répondra aux questions des auditeurs sur ce texte si contesté.
RTL Midi.
On en parlait ici même hier sur le front de l'énergie, le risque de coupure de courant est derrière nous cet hiver. C'est bien parce qu'on en a parlé quand même pendant 4 mois et les réserves de gaz sont pleines un peu trop d'ailleurs. C'est d'ailleurs Mme Borne qui, la première, en avait parlé au mois d'août et à l'arrivée, il n'y a eu aucune coupure.
Oui, mais c'est un problème ce gaz. Les Français ont fait tellement d'économies.
Maintenant, on en a trop. Non.
Exactement, un trop plein. Et Arnaud touche ce gaz en surplus. Eh bien, il va falloir s'en débarrasser.
Oui, alors je vous rassure tout de suite, il ne sera pas gaspillé. Et pour faire simple, la France va donc privilégier et envoyer une grosse quantité de gaz contenu dans ses propres stockages plutôt que celui qui arrive de l'étranger par pipeline. Car en réalité, nos stocks de gaz sont à 80% en ce moment, alors qu'en moyenne, à la même époque, ils devraient être à 60%. Vous me direz qu'en soi, il n'y a pas de problème. Mieux vaut en avoir plus que pas assez. Le seul souci, c'est que les nappes qui stockent le gaz ont des normes et ne peuvent pas garder une telle quantité trop longtemps. Pour des raisons techniques, il faut qu'à la fin de l'hiver, les stocks soient autour de 40%. Les stockeurs vont donc vider les nappes au fur et à mesure pour arriver à ce taux. Et cette procédure a lieu en fait chaque année, à la même période. La seule différence, c'est qu'on part de plus haut, car la France a été très prévoyante, avec des réserves au maximum avant l'hiver, que les Français ont moins consommé et que l'hiver n'a pas été aussi rude que prévu jusque-là.
Arnaud Touche pour RTL.
Alors que les Occidentaux se réunissent demain en Allemagne pour décider d'accroître ou pas leur aide militaire à l'Ukraine, le président Zelensky, lui, maintient son objectif, libérer toute l'Ukraine des forces russes.
Et notamment la Crimée, ce territoire annexé par Moscou depuis 2014, Sophie Jousselin.
Oui, la Crimée est notre terre, notre territoire, a déclaré ce matin le président ukrainien lors d'une visioconférence. Si au début du conflit, l'Ukraine n'envisageait pas de reprendre cette péninsule grande comme la Belgique à la Russie, c'est devenu un objectif au fil du temps, au fur et à mesure que Kiev engrangeait les succès sur le terrain. Les attaques contre le territoire annexé en 2014 par Moscou se sont multipliées depuis l'été. Un aérodrome russe en août, le pont de Crimée à l'automne, par lequel la Russie achemine troupes, matériel, denrées dans le sud de l'Ukraine. Dernières attaques il y a 3 jours, avec des drones sur Sébastopol, le grand port militaire sur la mer Noire. Pour faire entrer de nouveau la Crimée dans le giron ukrainien, Volodymyr Zelensky a donc lancé un appel aux Occidentaux ce matin. Donnez-nous vos armes et nous récupérerons nos terres, a-t-il déclaré.
Sophie Jousselin pour RTL. En Nouvelle-Zélande, sa déclaration a pris tout le monde de court. La première ministre Jacinda Ardern a annoncé qu'elle démissionnera le mois prochain. Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie pour ce que ce travail exige, a-t-elle expliqué. Jacinda Ardern, 42 ans, qui avait pris ses fonctions fin 2017.
Le sport et la NBA qui s'invitent à Paris. Ce soir, j'ai voulu prendre des places, figurez-vous. Je suis allé sur le site de vente et les places sont tellement hors de prix. Il restait des places à 600, 800, 900 euros qu'évidemment, je n'en ai pas acheté.
Le championnat de basket américain, c'est ça la NBA, hein, Pascal.
Oui, mais c'est pas raisonnable.
Qui ça
le vendre... Non, mais 900 euros la place.
Alors j'imagine que c'était des places très bien placées.
Oui, j'imagine, mais à 900 euros...
On n'ira pas. Nicolas Georgerot, lui, aura la chance d'assister à la rencontre, mais c'est professionnel. Hein. On sait que vous n'avez pas fait une note de frais de cette ampleur-là, Nicolas. Pour voir donc cette rencontre du championnat de basket américain dans la capitale française, Détroit affrontera les Bulls de Chicago. Ce sera à 21h à l'Accor Arena de Bercy. Et Nicolas, comme c'est une vraie journée de championnat, ce sera un match à l'américaine. avec là, et c'est un petit lien avec le tarif des places, avec des moyens colossaux. Hein.
Oui, oui, parce que tout doit être à l'identique. L'exigence est maximale. Plus de 500 personnes, par exemple, dans l'organisation sont arrivées en début de semaine, dont 150 dédiées à chaque équipe. 7 hôtels réservés. Bercy a fait sa métamorphose. Le parquet aux normes NBA qui reflète une luminosité particulière a traversé l'Atlantique en bateau et a été installé ces derniers jours. Les familles accompagnent les joueurs qui ont visité la capitale. Kylian Hayes, le meneur franco-américain de Détroit, a grandi en France.
C'est un peu mon rôle de les guider. Ça dépend ce qu'ils veulent, genre des bons restaurants. Le shopping, c'est la fashion week, du coup tout le monde va faire du shopping, ça c'est pas un secret. Moi aussi j'ai fait du shopping, mais Paris c'est une très belle ville. Je leur ai dit, il y a plein de restaurants qui sont bons, donc si vous choisissez n'importe lequel, ça vous serait bien.
L'ailier de Chicago, Derrick Jones, a fait hier sa demande en mariage. Paris fait toujours rêver. Les photos des Bulls et des Pistons devant la Tour Eiffel. Le légendaire Magic Johnson sera notamment présent ce soir dans la salle. Et le tout-puissant patron du championnat américain, Adam Silver, a rencontré Emmanuel Macron hier matin. La NBA reviendra en 2024, juste avant les Jeux Olympiques.
Nicolas Georgerot pour RTL. La météo, on vous retrouve comme promis Peggy Broche. C'est toujours frisqué.
Oui, c'est vrai que les températures sont souvent sous les normales de saison, surtout au nord. 1 degré seulement cet après-midi à Aurillac, 4 à Grenoble et Paris, 4 degrés également à Orléans, 5 à Tours, 6 à Rennes, 7 à Montélimar, 8 à La Rochelle. C'est plus doux près de la Méditerranée avec 10 degrés à Toulon, 11 à Bastia et 13 à Biarritz. On a une perturbation qui entre par la façade atlantique entre la Bretagne et l'Aquitaine avec des pluies soutenues du côté des Landes. D'ailleurs, je rappelle que les Landes sont toujours en vigilance orange crue. 8 autres départements sont en vigilance orange, mais pour neige, verglas entre la Dordogne et le Roussillon. En fin de journée et dans la soirée, on attend beaucoup de neige, parfois jusqu'en pleine sur cette partie sud-ouest du pays. Ailleurs, c'est souvent un temps gris, alors sauf entre la région PACA et les Alpes, où là c'est bien ensoleillé. Attention au risque d'avalanche aussi bien sur les Alpes que sur les Pyrénées. En Corse, quelques averses et encore quelques chutes de neige. Et puis sur un large quart nord-est du pays, entre la Normandie, l'Île-de-France, le Lyonnais, jusqu'aux frontières du Nord, là c'est un temps plutôt gris avec quelques chutes de neige, parfois pluie et neige mêlées du côté des Hauts-de-France.
Merci Peggy.
Dans un instant, Emmanuel Macron à Barcelone. Il n'a pas signé au Barça, mais il joue peut-être à quitte ou double avec la réforme. A tout de suite.
RTL Midi. Céline Landreau et Pascal Pro. RTL Midi.
Pascal Pro et Céline Landreau.
Comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir.
Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux Français et l'exécutif à l'épreuve de la rue en ce 19 janvier, c'est le premier grand test, on l'a dit, de la mobilisation contre la réforme des retraites. Le gouvernement a l'épreuve, mais à distance, puisque pour trouver Emmanuel Macron, il faut aller à Barcelone avec Bénédicte Tassard. Rebonjour Bénédicte.
Rebonjour, hola Céline.
Et bonjour à vous, Olivier Bost, en studio. Un président en Espagne, donc un jour si crucial. Bénédicte Tassard, d'abord, comment on justifie ça du côté de l'Élysée ?
Ah ben on vous répond que la date a été fixée de longue date, que l'Espagne c'est l'invitante, Paris n'est pas totalement maître du calendrier. Et puis vous savez, le président il n'évite pas tout à fait les mouvements sociaux. Ici il a été accueilli par les indépendantistes catalans qui manifestent dans la ville. Alors il y a un très grand entretien d'Emmanuel Macron dans le quotidien espagnol El País ce matin. On se disait il va peut-être évoquer la réforme des retraites en France, pas du tout. Le président de la République parle Europe, du besoin de reconnaissance des Européens. Et puis il y a cette petite phrase à la fin qui fait sourire dans le contexte. C'est un entretien très très grand hein, avec un écrivain espagnol et ils parlent littérature tous les deux. La littérature, il n'y a que ça qui compte, conclut Emmanuel Macron. Alors pour terminer sur cette journée, normalement le chef de l'État ne repasse pas par Paris. Il se rend ce soir à Mont-de-Marsan pour les vœux aux armées programmés demain.
Je vois Olivier Bost qui sourit et c'est vrai que cette attitude est parfois prise comme une forme d'arrogance ou même de mépris de ce qui se passe dans la rue. Mais il n'est pas le seul, Emmanuel Macron, à être parti. Il y a une partie du gouvernement avec lui et le ministre de l'Intérieur qui est le ministre des CRS un jour de grande manifestation. C'est étrange,
oui.
On assume.
Oui, oui. Il y a Gérald Darmanin. Alors, Gérald Darmanin, il va écourter son programme quand même. Hein. Le ministre de l'Intérieur va devoir rentrer au début de l'après-midi sur la capitale. Un seul n'est pas venu du tout alors qu'il était prévu. C'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail.
Ce sera sur RTL.
Voilà, vous l'écouterez sur RTL ce soir. Il y a 11 ministres français ici présents à Barcelone. Hein.
Merci Bénédicte. Olivier, Emmanuel Macron s'exprimera dans l'après-midi. Ce sera quand même compliqué d'échapper à une question sur la mobilisation en France. On sait comment il voit les choses, le président ?
Oui, parce que si jusqu'ici Emmanuel Macron n'a pas parlé dans un micro, pas des retraites en tout cas, il a en revanche beaucoup parlé ces derniers jours à des journalistes et à ses ministres, donc hors micro, sans caméra. Et Emmanuel Macron se montre déterminé. Il ne croit pas, a-t-il dit, pour vous le rappeler, à une victoire de l'irresponsabilité. En Conseil des ministres hier, il s'est fait plus précis et il a dénoncé les contre-vérités et les mensonges de la gauche. Et puis la dernière mise en garde est aussi à destination de la rue. Pas de blocage, manifester oui, bloquer non. Emmanuel Macron affiche sa détermination et appelle tous ceux qui l'entourent à l'humilité. Alors humilité et détermination, la combinaison n'est pas évidente. La moindre fausse note peut être terrible, d'autant que l'idée est bien d'aller jusqu'au bout de cette réforme. Renoncer est impossible.
Bon, on comprend qu'il joue son quinquennat avec cette réforme.
Très clairement, parce que si la rue gagne, Emmanuel Macron ne pourra tout simplement plus rien faire. 4 ans encore pour rien à l'Élysée, ça serait non seulement très très long, mais probablement pas de tout repos d'ailleurs, au passage. L'échec de cette réforme, ça n'est pas compliqué, ça effacerait quasiment les deux quinquennats. Il n'y aurait plus de bilan pour Emmanuel Macron.
Il peut faire un référendum, peut-être. Il peut reprendre la main, il peut dissoudre, pourquoi pas. Et le référendum, est-ce que c'est imaginable ?
Il y a des options politiques qui existent, effectivement. Avant, le problème, c'est que quand vous regardez aujourd'hui l'état de l'opinion, un référendum, vous avez déjà la réponse. Et subir un échec sur un référendum, on l'a vécu dans l'histoire, ça amène parfois une démission. Donc c'est pas du tout pour l'instant dans les tuyaux. Pour l'instant, en fait, on a un bras de fer qui est parti pour durer, de toute évidence. D'autant donc effectivement que pour l'instant, l'opinion est massivement opposée à la réforme des retraites. Mais elle est aussi, et ça on l'a précisé ce matin dans notre sondage à Harris Interactive, elle est aussi défaitiste. Pour les Français, la majorité des Français, la réforme passera. Donc du côté du gouvernement, pour ne pas donner l'impression que tout est totalement figé, parce que c'est quand même l'impression que ça donne aujourd'hui, que c'est la rue aussi contre le pouvoir et rien d'autre, certains ministres commencent à expliquer que certes ils vont aller jusqu'au bout de la réforme, mais que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des discussions. Mais
il peut céder sur quoi, par exemple ? Est-ce qu'il peut céder sur l'âge qui est un chiffon rouge, 64 ans ? Est-ce qu'il peut dire 43 ans ?
C'est toute la question.
43 ans, par exemple, de cotisation, c'est peut-être acceptable. Et 64 ans, ça ne l'est pas.
Pour l'instant, il n'est pas question de revenir là-dessus, parce que ça passe. Il y a vraiment deux choses. C'est effectivement les 64 ans et les 43 années de cotisation. C'est les deux symboles. Si c'est vraiment pas sur ces symboles-là que pour l'instant il peut lâcher, il n'en est pas question. En revanche, il peut y avoir des discussions sur d'autres choses, notamment sur les petites retraites, sur
la pénibilité,
sur ce genre de choses. Mais il est encore franchement trop tôt pour savoir sur quoi pourraient porter des discussions et aussi avec qui.
Merci beaucoup, Olivier Bost.
Avec qui, comme tout le monde est contre, effectivement, cette réforme.
Vous avez les LR, vous avez des syndicats qui peuvent évoluer.
Les syndicats peuvent évoluer, vous pensez ?
On n'en sait rien. Je veux dire, si l'opinion bouge un peu, si ça se passe très, 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 très mal, il peut y avoir un moment, ça peut reprendre. Des discussions peuvent reprendre, c'est pas exclu.
Eh bien, merci. On verra ça. Et effectivement, vous pourrez réagir entre 13h et 14h30. On va parler avec culture dans une seconde avec Laurent Marsic qui est là. On parle de quoi ? De la Cité de l'Histoire.
Exactement.
À tout de suite.
L'actualité vous concerne.
Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
Et chaque jour, la culture se met à table et c'est l'occasion de parler à chaque jour cinéma, littérature, musique. Et aujourd'hui, Céline ?
Aujourd'hui, musée, enfin Cité de l'Histoire. Alors, rien à voir avec celle voulue pendant un temps par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Non, la Cité de l'Histoire qui vient d'ouvrir ses portes sous la Grande Arche de la Défense, près de Paris, est un musée immersif, Laurent Marsic. Ouais. Musée que vous avez visité pour nous.
Oui, c'est une drôle d'histoire, cette Cité de l'Histoire. C'est un pari un peu fou, en fait. Tout commence il y a un an. À l'époque, l'écrivain et passionné d'histoire Franck Ferrand cherchait une salle type boîte de nuit pour la convertir en salle de cinéma immersif sur l'histoire.
Immersif, faut que vous nous disiez ce que c'est.
Immersif, soit vous avez des casques 3D, soit vous avez de la projection sur les murs, un peu comme ce qui se fait à l'Atelier des Lumières. La suite de l'histoire, c'est Franck Ferrand, directeur de la Cité de l'Histoire, qui la raconte.
À l'origine de la Cité de l'Histoire, il y avait la volonté de faire un grand spectacle immersif, la projection monumentale, pour donner aux gens le goût de l'histoire, ou pour le renforcer. Et puis, en visitant des sites, nous sommes tombés sur cet espace extraordinaire du socle de la Grande Arche de la Défense. 11 000 mètres carrés disponibles d'un simple spectacle cinématographique. Nous avons décidé d'évoluer vers autre chose et qu'est né le projet d'une cité de l'histoire.
11 000 mètres carrés, c'est géant, c'est sous donc la Grande Arche de la Défense. C'est là que depuis un an maintenant, près de 800 000 visiteurs sont venus chausser des casques en trois dimensions pour pouvoir visiter l'exposition Notre-Dame. Trois autres espaces viennent donc d'ouvrir au même endroit, tout ça sous la houlette d'Amaclio. C'est une société qui est spécialisée dans des projections d'images monumentales. Ils le font par exemple pour la nuit aux Invalides. Première plongée visuelle, une immense salle avec une façade d'immeuble à 360 degrés autour de nous, comme une arène, on est dedans. Et puis ils projettent plein d'images. C'est en écho à l'exposition Notre-Dame, voici la vie du père du roman Notre-Dame de Paris, racontée la vie de Victor Hugo.
Mon Victor, ta passion pour les livres doit beaucoup, sans doute, à ce grenier. Tu m'as parlé souvent de ta mère, ardente royaliste, et de ton père, le général d'Empire.
Nous avons choisi Victor Hugo pour des raisons qui, au départ, étaient de cohérence, puisqu'il s'agissait tout à fait à l'origine du projet, il s'agissait d'une double présentation, d'une réalité virtuelle sur Notre-Dame et d'un film sur Victor Hugo à travers Notre-Dame de Paris. Et puis, les choses ont évolué d'une autre manière. D'une certaine façon, le lien s'est perdu, mais Victor Hugo, lui, est resté.
Mais le clou du spectacle est juste à côté avec une machine à remonter le temps, c'est-à-dire...
Alors, comme vous n'êtes pas très 3D, virtuel, etc., et choses projetées, là, pour le coup, moi, j'ai adoré, vous allez adorer aussi si vous y allez. C'est un long dédale de couloirs, en fait, comme un labyrinthe avec plein de pièces. On appelle ça un parcours immersif dans des décors reconstitués. On part des années 80, on est face à un bureau des années 80-90, il y a Edith Cresson qui est dans une télévision, on passe un premier rideau, guillemets temporel, et apparaît assis à son bureau le général de Gaulle. Il est là façon statue du musée Grévin, donc c'est hyper réaliste.
Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France.
C'est-à-dire qu'on est véritablement plongé, propulsé dans les scènes historiques avec des personnages grandeur nature et pour cause, puisque pour beaucoup d'entre eux, ce sont des comédiens et des figurants.
Vous voulez savoir pourquoi on leur a fait la guerre aux Boches ? Allez, on entre en silence.
Avec des objets qui sont des objets usuels auxquels on pourrait presque avoir recours aujourd'hui encore. Et on essaie de faire sentir aux gens, parce que c'est bien de l'ordre de la sensation, sentir que ce passé est moins éloigné, est moins compassé, est moins mort qu'il pourrait le paraître. L'idée, c'est de faire revivre le temps. Et quand on est dans la vie, généralement, on est un peu mieux dans la compréhension.
Vous avez vu ça ? Que ça arrive à rien.
Là, on est dans un atelier d'un menuisier et on voit en fond, derrière, une maquette, la Bastille, en fait, qui est en train de prendre feu. Et donc, les acteurs jouent. Chaque décor a été travaillé avec soin. Quand on arrive sous la tente de Napoléon, en pleine conquête de Russie, il y a un vent glacial qui nous fouette le visage. Et puis, ainsi de suite, on croise Jeanne d'Arc, on remonte le temps jusqu'à la conquête des Vikings.
Trois fois, entendez-vous ? Trois fois depuis l'enfance. J'ai vu leurs affreux navires à tête
qui est en face de nous, qui nous raconte ça. Il y a un passage ensuite par une frise chronologique, un couloir du temps. Là, vous avez 400 dates qui sont évoquées. On clique sur des écrans pour faire apparaître sur le mur des tableaux, des photos qui nous rappellent un fait d'histoire.
Si la cité de l'histoire peut devenir un point de ralliement, un endroit où l'on vient flâner, où l'on vient discuter, où l'on vient rencontrer des professeurs ou des chercheurs, alors nous aurons réussi tout à fait notre pari.
La Cité de l'Histoire, ouverte du mardi au dimanche. Il y a des horaires 20h, 22h. L'entrée est à 24 euros. C'est pile sous l'Arche de la Défense.
C'est formidable. Hein.
C'est super à visiter.
Ça a l'air immense. 11 000 mètres carrés, vous avez dit.
Il y a une bibliothèque de dingo à la sortie.
Ça a ouvert quand ?
Ça a ouvert mardi, 17.
Eh bien, les vacances vont arriver bientôt. J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, beaucoup de gens même qui nous écoutent en région, qui seront peut-être à Paris. C'est une bonne idée pour aller.
Il va y avoir des conférences, ils vont monter plein de choses. Ça va être un centre. Point de convergence.
Merci Laurent.
12h58, vous nous avez donné envie, et c'est finalement l'essentiel, envie d'aller à l'Arche de la Défense, en métro, s'il revient.
Mais la une fonctionne, c'est une bonne nouvelle.
Et la une, c'est...
C'est celle qui va sous l'Arche de la Défense, parce qu'elle,
parfait,
les
parce
choses sont bien faites.
Parce qu'elle est automatique.
Exactement.
Le métro, c'est ce qui est sous la terre. Hein.
C'est ça, le serpent de fer qui
c'est très...
se déplace sous terre. Exactement. Je vous expliquerai.
Et 12h58, on va parler peut-être avec des manifestants qui sont dans les manifestations. Appelez-nous au 3210. Dites-nous si vous comprenez le sens de cette réforme, parce que c'est vrai... qu'on a parfois du mal à comprendre exactement à quoi elle peut servir. À tout de suite.
RTL Midi.